Elle sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, merci de votre confiance. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons football. Avec cette question, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 se tiendra-t-elle en janvier prochain? Vous le savez qu'en raison de la pandémie de coronavirus, de nombreuses rencontres de qualification ont dû être repoussées. Le monde du football est à l'arrêt. Nous sommes à 7 mois du début de la compétition et Hamad, le président de la Confédération africaine, ne sait pas si la CAN aura bien lieu en janvier. Notre priorité, c'est d'abord la santé, a-t-il dit il y a quelques jours. En tout cas, il reste encore 4 tours de qualification à disputer. Ensuite, les nations qualifiées auront-elles le temps de préparer la compétition? Le report de la CAN est-il donc inévitable? Imaginons un instant que nous repoussions la Coupe d'Afrique des Nations à juin 2021. Est-ce que cette option vous semble envisageable quand on sait que l'Euro se tiendra justement au même moment? Vous le comprenez, c'est un véritable casse-tête qui s'annonce. La CAN 2021 sera-t-elle finalement annulée? Appelez-nous, exprimez-vous, on a envie de vous entendre. 33 9 693 693 70. Vos réactions, et elles sont nombreuses sur la page Facebook de l'émission. Vous continuez évidemment à les poster, j'en lirai quelques-unes tout à l'heure pour alimenter la réflexion et alimenter le débat. Mais d'abord, durant les 20 prochaines minutes, vos témoignages sur la pandémie de coronavirus. Tous les jours, RFI vous donne la parole sur les mesures adoptées dans vos pays pour faire face à cette crise sanitaire. Parlez-nous des conséquences dans votre vie quotidienne. Dites-nous si la riposte est finalement à la hauteur de vos attentes. J'ai sous les yeux le commentaire de Flavien. Flavien, il est à Porto Novo, au Bénin. Il nous dit sur Facebook « Je ne suis pas du tout satisfait par les mesures contradictoires prises par le gouvernement. Le gouvernement qui interdit la circulation des bus, mais il autorise les taxis 5 places à circuler avec 3 clients. Alors pourquoi ne pas permettre aux bus à moitié plein de circuler ?» s'interroge cet auditeur. On a également le commentaire de Denis. Il nous écoute à Kolwezi, en République démocratique du Congo. Il affirme que les mesures comme le couvre-feu, le port obligatoire du masque, la distanciation ont été prises, mais il n'y a pas de suivi, ce qui pose un véritable problème, car finalement, chacun fait comme il l'entend. Voilà des réactions, voilà des témoignages de votre vie quotidienne, et c'est de cela qu'on souhaite parler durant les 20 prochaines minutes. Abdel, bonjour.
Oui, bonjour Anne.
Vous êtes à Conakry, vous êtes en Guinée. Conakry, la capitale, qui depuis maintenant 10 jours est isolée du reste du pays. Et cette mesure, elle passe très mal auprès d'une partie de la population.
Oui, absolument. Elle passe très très mal. Il y a plus de 10 jours aujourd'hui, les deux villes de Koya et Adubeka sont isolées totalement de Conakry par les autorités. Donc, les habitants de Koya et du Bekra, il y a des fonctionnaires qui sont parmi eux, qui travaillent dans les ministères, qui ont des boutiques, des magasins au grand marché de Madina, et on les empêche totalement de s'y rendre au centre-ville de Conakry à Kaloum. Ouais. Donc, ce qui a irrité les citoyens, les femmes et ces jeunes à ériger des barricades, pour faire une précision, Juan. Donc c'est cette police et cette gendarmerie qui ont mis en place un barrage juste pour racketter les citoyens. Parce que quand vous venez, la semaine dernière, avant qu'ils ne cèdent ce barrage, si vous avez 150 000, 200 000, on vous laisse passer la police et la gendarmerie. Et que si vous n'avez pas d'argent, on vous laisse pas passer.
Oui, alors Abdel, c'est effectivement ce que dénonce la population de ces deux quartiers éloignés de Conakry. Officiellement, les barrages ont été mis en place pour éviter que les habitants de la capitale ne quittent Conakry et que ceux qui vivent à l'extérieur de la capitale ne puissent entrer. Donc ce sont des barrages censés freiner la propagation du virus. Alors effectivement, après, Il y a les faits, il y a la réalité, il y a le quotidien. Et on voit bien que la population est fatiguée d'être racketée par la police. C'est ce qu'elle dénonce, d'où les manifestations, d'où la colère d'une partie de la population mardi, notamment à Koya, à Doubreka, les deux villes dont vous parliez à l'instant. Il y a eu quand même des incidents particulièrement graves. 5 morts à Koya, selon la police, 1 mort à Doubreka. Comment peut-on calmer la situation, Abdel? Il faut bien, à un moment donné, quand on sait que Conakry est l'épicentre de l'épidémie dans votre pays, il faut peut-être penser sérieusement à isoler la capitale. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines.
Oui, c'est Oui, c'est tout à fait normal qu'on puisse isoler la capitale. Mais Wang, ce que vous n'allez pas comprendre, parce qu'on ne peut pas isoler la capitale à la mesure où les habitants de Koya et de Dubreka, ils travaillent à Conakry, ils gagnent leur quotidien, ils travaillent dans les ministères, ils ont des boutiques à Madina. Les femmes qui vont dans les magasins, dans les boutiques, dans les marchés de Matoto, qui travaillent, qui font la navette chaque matin et qui rentrent le soir, on ne peut pas les empêcher de rentrer à Conakry. D'accord ? Donc c'est ces raquettes que ces citoyens de Koya et de Dubreka qui n'ont pas aimé du tout. Oui. Et ce qui a mis le feu à le poudre là. Donc il y a eu 5 morts, on déplore les morts.
Il y a eu 5 morts à Koya, plus 1 à Dubreka. Au total, pour la journée de mardi, il y en a eu 7 également. Vous savez, Abdel, vous êtes à Conakry. J'ai sous les yeux le commentaire de Ben. Lui, il est à Djamena, au Tchad. Djamena est également isolé du reste du pays depuis maintenant une semaine. Et comme vous, il nous dit, le problème, c'est que certaines personnes ne peuvent pas manger si elles ne sortent pas de chez elles. L'État ne pense pas à elles. Le déconfinement est la seule solution pour leur permettre de vivre. Donc, Abdel, vous appelez au déconfinement de Conakry.
Absolument. Oui. Parce que là, les autorités, ils n'arrivent pas du tout à freiner la maladie. Parce qu'aujourd'hui, à Conakry, je vous parle, les marchés sont remplis de monde. Sont bourrés de monde, Juan.
Oui.
Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Conakry, nous sommes à plus de 2000 cas aujourd'hui, confirmés. Oui. Chaque jour, c'est 30, 40, 85 cas par jour.
Donc, il y a quand même un paradoxe, finalement, quand on écoute votre témoignage. On isole Conakry, mais on permet aux citoyens de la capitale de fréquenter encore et toujours les marchés, sans forcément qu'il y ait des mesures de distanciation physique. Donc, effectivement, s'il n'y a pas de distanciation, le virus continue à circuler au sein même de la capitale. Abdel, en tout cas, merci de ce témoignage. Vous êtes très nombreux à nous écrire de Conakry. Je ne lis pas forcément tous vos témoignages car les réactions nous viennent d'un peu partout et on est là en 20 minutes pour essayer de faire un tour d'horizon du continent africain. Mais ne vous inquiétez pas, je les lis, peut-être pas à l'antenne, mais je tiens compte de vos témoignages pour alimenter ensuite les débats et les discussions. Emmanuel nous a contacté d'Abidjan. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Juan.
Bienvenue, vous êtes donc dans la capitale économique ivoirienne, inquiet car le sort du grand Abidjan sera connu dans la journée.
Oui, évidemment, il y a le Conseil national de sécurité qui se tient aujourd'hui et ce soir on devra avoir les décisions concernant le grand Abidjan après celles concernant l'intérieur du pays du jeudi 7 mai dernier.
Alors l'intérieur du pays a été déconfiné. C'est bien ça. Ça a été annoncé la semaine dernière par le président Alassane Ouattara. Assouplissement donc des mesures, sauf à Abidjan. C'est-à-dire qu'à Abidjan, le couvre-feu est toujours maintenu. Les restaurants, les bars, les cinémas sont fermés. Les universités, les écoles. Mais peut-être que dans la journée, dans la soirée plutôt pour être précis, on annoncera un déconfinement du grand Abidjan. Pourquoi êtes-vous inquiet, Emmanuel ?
Évidemment parce que malgré toutes les mesures de l'État, on assiste à une augmentation quotidienne de nouveaux cas. Pas plus tard qu'hier, nous étions à 55 nouveaux cas pour 82 nouvelles guérisons, donc portant le bilan à 912 cas confirmés et 902 guéris.
Oui, 1912 cas confirmés, pour être précis, vous avez dit 912, c'est 1912 cas confirmés. Effectivement, 55 nouveaux cas pour la journée d'hier. La veille, mardi, 127 personnes avaient été testées positives. Donc vous vous dites, dans ce contexte, impossible de déconfiner.
Oui, complètement. Il ne faut pas étayer, parce que si on vient déjà à autoriser les restaurants et autres à ouvrir, les populations croiront que déjà la pandémie, bon, on l'a vécu, déjà que beaucoup n'y croient pas trop. Donc on pourrait facilement se retrouver dans le cas du Ghana ou de l'Afrique du Sud et franchir la barre des 5000 ou 7000 cas confirmés. Donc ça pourrait complètement, même si le taux de mort est assez faible, il faut quand même rester prudent et maintenir toutes ces mesures.
Alors, vous citiez à l'instant le Ghana, Emmanuel. Abdoul, il est à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Il nous dit, lui, il est encore trop tôt pour un allègement des mesures. C'est parce que le Ghana a allégé ses mesures préventives que le nombre de cas a doublé. Effectivement, il y a 3 semaines, le président Nana Akufo-Addo a levé la restriction des déplacements. Et depuis cette décision, eh bien, le pays est confronté à un rebond de l'épidémie. Vous avez certainement entendu Emmanuel et Abdoul, et c'est peut-être pour ça que vous citez le Ghana, ce cas, 533 nouveaux cas détectés dans une usine à Tema, à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Une seule personne a infecté plus du tiers des ouvriers de cette usine. Donc évidemment, les Ghanéens ont peur. Et quand vous, auditeurs, vous suivez ce qui se passe au Ghana, on se dit, ah, attention, peut-être qu'il ne faut pas déconfiner aussi rapidement que prévu. Emmanuel, un dernier mot ?
Oui, juste qu'on espère que l'État sera sage et que la population continuera à suivre les différentes mesures de prévention.
Enfin, en même temps, Emmanuel, j'ai lu dans la presse ivoirienne qu'il y avait déjà des embouteillages à Abidjan.
Oui, il y en a toujours.
Il y en a toujours, mais il n'y en avait pas ces dernières semaines. Visiblement, depuis que le président Ouattara a annoncé un assouplissement des mesures à l'intérieur du pays, à Abidjan, on s'est un peu relâché. C'est vrai ou pas ?
Oui, il y a même certains qui estiment que bon, ils vont commencer à nettoyer leur restaurant et autres parce qu'ils s'attendent à ce que, évidemment, il y ait la levée de toutes les restrictions.
Merci de ce témoignage, Emmanuel. Prenez soin de vous. Merci de votre confiance, de votre fidélité. Sous les yeux, le commentaire d'Eladji sur WhatsApp. Je suis enseignant dans le privé. Je peux dire que ni la direction des écoles privées ni l'État ne pensent à nous. Nous sommes tellement démunis que nous ne pouvons plus payer nos loyers. Vous êtes plusieurs enseignants à nous avoir écrit et surtout les enseignants du privé pour nous dire il n'y a plus d'école et nous ne sommes plus payés. Donc, comment faisons-nous ? On va essayer d'en rappeler un ou deux, peut-être d'ici la fin de l'émission ou certainement demain. On a envie de vous entendre. J'ai reçu également, et je trouvais ce témoignage intéressant, un petit mot de Laoucine. Laoucine, il nous écoute dans les montagnes de l'Anti-Atlas, dans la région d'Agadir, au Maroc. Bonjour Laoucine.
Bonjour Juan, bonjour les éditeurs de RFI.
Merci de nous avoir envoyé un petit message sur WhatsApp. Je sais que vous êtes un fidèle auditeur de RFI. Vous écoutez RFI quand vous arrivez à avoir de la connexion Internet, disiez-vous, au standard, puisque vous êtes dans l'oasis de Targa Tchouka, c'est bien ça ?
Targa Tchouka, exactement, une oasis des montagnes.
Voilà, exactement. Bah, écoutez, merci d'abord de votre fidélité, merci de nous appeler pour témoigner, parce que vous aviez envie de nous raconter un peu de la situation dans les montagnes de l'Anti-Atlas, et surtout nous raconter un peu votre expérience depuis le début du confinement au Maroc.
Bon, moi je me suis retrouvé bloqué ici à Targa Tchouka, donc fermeture des frontières, fermeture des îles. Et cependant, donc dans cette oasis, on a une ambulance et les deux employés, malheureusement, sans expérience devant ce virus dangereux qui se transmet, un est tombé malade, donc il a pris un congé maladie et l'autre congé de vacances. Donc ce qui fait que l'ambulance s'est retrouvée sans personne. Oui. Donc voilà, avec le président de la commune, je me dis, je suis volontaire pour s'occuper de cette ambulance, vu que j'ai une expérience dans le milieu humanitaire. Donc de coordinateur logistique, donc responsable sécurité, donc gestion des risques, etc. Mmh. Donc voilà, donc mes journées, je les occupe. Comme là, je vais partir pour aller chercher une patiente entre Targa Tchouka et les différents hôpitaux de la région jusqu'à Agadir, qui est à une centaine de kilomètres d'ici.
Oui, par exemple, vous disiez au standard, mardi, vous avez emmené une femme enceinte chez une sage-femme. 50 kilomètres de route, il fallait forcément l'ambulance. 50 kilomètres de route sinueuse, montagneuse.
Voilà, donc sinueuse quand je vais chercher dans son village. Mais bon, c'est vrai qu'on a la chance quand même, on a de la route goudronnée de Targa Tchouka jusqu'à certains endroits. Mais c'est vrai que parfois dans la journée, ça fait deux, voire même trois déplacements dans la journée, parce que il n'y a pas de moyen. Donc en fait, les routes sont coupées. Les seules pour les malades chroniques et autres, les seules possibilités, c'est l'ambulance pour aller à Agadir, par exemple, ou à notre hôpital qui est à 80 km d'ici. Donc ça va faire quelques kilomètres. Il y a une population à peu près ici de 7000. C'est une zone très étalée. Donc il faut aller faire des kilomètres. Je crois qu'en une 10 jours, j'ai fait l'équivalent de Agadir-Paris.
Ah 3000 kilomètres. Heureusement que vous vous êtes porté volontaire pour être ambulancier le temps du confinement au Maroc. Un confinement particulièrement strict, instauré depuis le 20 mars. Le Maroc, je regardais pendant que je vous écoutais, le troisième pays africain le plus touché, avec plus de 6500 cas enregistrés, 188 décès. Est-ce que le confinement qui est obligatoire, il est très strict ? Est-ce qu'il est suivi dans la région où vous êtes, dans les villages de la montagne d'Anti-Atlas?
Alors, nous, on a la chance au Maroc, les autorités ont pris la chose au sérieux. Ils ont pris, comme vous dites, donc, dès le 20 mars, ils ont bloqué toutes les villes, on n'a plus le droit de sortir, fermeture des frontières. Bon, dans les villages, un peu moins, parce que, comme me disaient tous les collègues, les auditeurs que j'ai écoutés tout à l'heure, la plupart des gens vivent à la journée, donc il faut qu'ils se nourrissent.
Ils sont obligés de sortir. Donc il y a du monde qui sort.
Ils sont obligés d'aller dans les souks, de sortir. De travailler, donc c'est vrai que c'est pas si évident, mais nous on a la chance ici dans l'anti-Atlas, on n'a pas encore de cas.
Bon, tant mieux.
Donc ce qui fait les gens sont un peu plus souples.
Merci. Mais, là aussi, merci, je vous interromps, je suis désolé, le temps passe très très vite, en tout cas je suis ravi d'avoir dialogué avec vous, merci de votre fidélité. Continuez à écouter RFI lorsque vous avez des connexions internet entre deux patients et prenez soin de vous. Il nous reste encore 4 minutes consacrées à une personnalité tous les jours. RFI donne la parole à une personnalité pour réagir à la pandémie de coronavirus. Aujourd'hui avec nous, le chanteur et compositeur camerounais Blik Bassi. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Blik Bassi. Vous vivez en France, mais vous êtes très attaché à l'Afrique, très attaché à votre pays, le Cameroun. D'ailleurs, je signale que votre dernier album en date, 1958, c'est son titre, est un hommage à Ruben Umniobé, pionnier de l'indépendance camerounaise. Vous suivez de près, Blik Bassi, l'évolution de la pandémie sur le continent africain. Quelles leçons faudra-t-il tirer de cette crise ?
Mais en fait, je pense que cette crise a permis la première des choses, c'est qu'elle a permis de démontrer que désormais, en fait, le continent va pouvoir compter sur lui-même pour régler ses problèmes. C'est-à-dire, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui d'un pays à un autre, que ce soit la dynamique qui est partie de Madagascar ou de Côte d'Ivoire ou de bien d'autres pays comme le Sénégal, on voit bien qu'il y a une volonté aujourd'hui pour les Africains, tout simplement, de pouvoir gérer leurs problèmes de manière solidaire, et parce que cette crise aussi a quelque part, je pense, déclenché des dynamiques solidaires, que ce soit en Afrique ou ailleurs. On voit bien qu'aujourd'hui, moi, je vois tout simplement autour de moi aussi, avec mes voisins, c'est vraiment, on est dans un élan d'entraide les uns avec les autres. Et en Afrique aujourd'hui, je suis vraiment content de voir que désormais le continent a compris qu'il faudrait qu'il règle ses problèmes en fait par ses propres moyens, par sa propre perspective, et ne plus vraiment attendre de certains organismes qui en fait parfois jouent un rôle très ambigu. Quoi.
Et notamment ces organismes, l'un d'entre eux qui est très critiqué sur le continent africain, c'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui a prédit une hécatombe sur le continent africain. Heureusement, la propagation de la maladie progresse bien plus lentement sur le continent qu'en Europe ou aux États-Unis. Ça contredit finalement tous ces discours afro-pessimistes.
Oui, en fait, on a l'impression que ces organismes et bien d'autres ont toujours eu l'habitude de considérer ce continent, qui est le continent mère, qui pour moi est le continent du prototype humain, comme étant un continent de désastre, de maladie, de guerre et toute autre hécatombe. Moi j'ai vu des journaux s'inquiéter du fait qu'en fait il n'y ait pas de mort là-bas, quoi. Comme si c'était quelque chose d'anormal, en fait, que ce continent s'en sorte mieux que beaucoup de pays, beaucoup d'autres espaces, et oui, je pense qu'il est vraiment important désormais de comprendre que les choses vont peut-être changer, et qu'à partir du moment où nous aurons des leaders sur le continent qui vont décider de leur propre avenir, et que surtout nous avons des populations aujourd'hui qui ne se laissent plus faire. On voit des scandales qui, par exemple, autour de la vaccination, où aujourd'hui les populations ne veulent plus tout simplement accepter ce que certains gouvernants accepter avec derrière des deals qui n'étaient pas des deals très clairs. Donc aujourd'hui, grâce à Internet aussi, on a une vigilance qui est vraiment hyper importante pour que ce continent puisse réellement régler des choses avec des conséquences qui soient...
Et à vous entendre, on voit bien que le continent peut véritablement sortir renforcé de cette crise sanitaire qui a des conséquences sociales et économiques. Merci infiniment, Blik Bassi, d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour vous adresser aux auditeurs de RFI.